Aujourd'hui est un jour de jeûne et de prière pour nous dans l'Église du Dieu vivant. Et il s'agit bien sûr d'un jeûne volontaire. Il n'est pas obligatoire comme l'est le jour des expiations. Néanmoins, je pense que la plupart d'entre nous ressentent une certaine obligation de jeûner lorsqu'un jeûne est demandé. Et bien sûr, nous ne jeûnons pas pour nous allier contre Dieu. Je pense qu'il est très facile de tomber dans ce piège. C'est pourquoi les gens demandent parfois quel est le but du jeûne. Et je suppose que c'est compréhensible. Le premier but du jeûne est de nous humilier, de confesser nos péchés et de nous rapprocher de Dieu. Mais nous avons des exemples comme Esther, où nous voyons que les gens jeûnèrent pour une situation dans laquelle se trouvait le peuple de Juda. Une situation désespérée où la nation aurait pu être totalement anéantie. Nous avons donc ce cas particulier et les gens jeûnent pour une raison similaire. Mais il est également opportun en ce moment de faire une pause et de regarder en arrière pour voir d'où nous venons et où nous allons et comment nous sommes arrivés ici. Je sais que beaucoup d'entre vous savent qu'il y a 2 semaines et 1 jour, cela a marqué le 40e anniversaire de la mort de M. Herbert W. Armstrong. Vous avez certainement tous entendu parler de lui, mais la plupart d'entre vous n'étaient pas dans l'Église de Dieu il y a 40 ans. De nombreux jeunes sont nés depuis cette époque. Même en remontant 45 ans en arrière, à l'époque où quelqu'un avait 5 ans, la plupart des gens nés depuis n'auraient quasiment aucun souvenir de M. Armstrong, et nous pourrions même remonter jusqu'à 50 ans. Mais nous avons tous été affectés par sa vie et par la façon dont Dieu l'a choisi et utilisé d'une manière très spéciale. Quiconque comprend la vérité des Écritures et de l'histoire ne peut douter que Dieu a utilisé cet homme d'une manière vraiment remarquable, à un moment critique de l'histoire de l'humanité. Et je pense qu'il est important que nous en prenions conscience. Matthieu 24, verset 21, est un verset qui nous est très familier. Vous pourriez peut-être le citer, je n'essaierai pas de le citer maintenant. Dit quelque chose comme « Car alors la détresse sera si grande » qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et il dit au verset 22, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. » Ce sont les versets 21 et 22 de Matthieu 24. N'est-il pas intéressant de constater que l'expansion de l'Église, l'Église de Dieu, la véritable Église, et non le soi-disant christianisme qui existe, s'est fait à une époque où cette Écriture pouvait s'accomplir. Non pas qu'elle se soit accomplie, mais qu'elle pouvait s'accomplir. Ce n'est qu'au cours de la seconde moitié du 20e siècle que l'humanité pouvait détruire toute chair de la surface de la terre, comme Jésus l'avait prédit, à moins qu'il n'intervienne. M. Herbert Armstrong a vécu à une époque tout à fait unique dans ce sens. Il a vécu 2 guerres mondiales, la Grande Dépression, l'ère de l'automobile, les inventions de la radio, de la télévision et de l'ordinateur, et les voyages en avion. En 1903, les frères Wright ont pris leur premier envol ici même en Caroline du Nord, sur la côte. L'un d'eux a parcouru 120 pieds lors de ce premier vol, en 12 secondes. Tout cela est indiqué sur les monuments commémoratifs, mais c'était en 1903, et pourtant M. Armstrong a vécu pour voir l'homme marcher sur la Lune. Je sais que certains pensent que cela ne s'est jamais produit. Je laisse ces personnes à elles-mêmes. On ne peut pas tromper autant de gens quand 1/3 de million de personnes ont été impliquées dans la production de l'équipement et de tout le reste. Et bien sûr, les Russes, pendant la guerre froide, ne l'ont jamais contesté. Personne ne l'a jamais fait, aucun gouvernement ne l'a jamais contesté, et c'est remarquable en soi. Néanmoins, il a également vécu pendant le balbutiement de la radio. La première émission de radio date de 1906. Et pourtant, M. Armstrong a utilisé la radio d'une manière très spéciale, et l'œuvre s'est développée grâce à cela. Dans ce sermon, je vais nous rappeler à tous notre héritage, l'époque unique dans laquelle nous aussi vivons, et expliquer pourquoi cela exige une réponse pleine et entière de notre part. Dans un sermon sur la mission de l'ère de l'Église de Philadelphie, M. Armstrong commençait en disant « Cet après-midi, je veux parler de la mission de l'Église de l'ère de Philadelphie, cette Église aujourd'hui. » En comparaison avec la première Église, ou de la première ère de l'Église, l'ère de l'Église d'Éphèse, il me semble de plus en plus, au fil des années, que la Bible a été écrite principalement pour l'Église de l'ère de Philadelphie. Ce n'était pas compris jusqu'à présent. La Bible n'était pas encore écrite au début de l'Église, c'est-à-dire pendant l'ère d'Éphèse, la première ère de l'Église. Maintenant, M. Armstrong remonte un peu dans le temps, mais j'aimerais remonter jusqu'au début pour que nous puissions réfléchir au caractère unique de notre époque aujourd'hui, les 100 dernières quelques années environ. Il est intéressant de noter que c'est le 40e anniversaire de sa mort, mais c'est aussi le 100e anniversaire du moment où Dieu a commencé à appeler M. Armstrong. La Bible ne nous donne aucun document écrit avant l'époque de Moïse. Il s'est donc écoulé 2500 ans sans aucun document écrit. Avant cette époque, Dieu travaillait avec des individus d'une manière très personnelle. Il est apparu à certains, comme Adam, évidemment, Noé, Abraham, Isaac et d'autres. Il agissait par le biais de rêves et de visions avec Jacob et Joseph. Nous lisons cependant qu'il connaissait la loi. Si nous revenons à Genèse 26, nous voyons que, même s'il n'y avait pas d'écrit à cette époque, nous savons qu'il connaissait la loi, plus que les commandements, parce que nous lisons ici à propos d'Isaac, verset 3, « Séjourne dans ce pays-ci », puis au verset 4, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel ». Il dit, « Je t'honorerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Pourquoi? Verset 5, Genèse 26, verset 5, « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Il y avait donc plus que les 10 commandements à la disposition d'Abraham ou d'Abraham, et des autres personnes. Et nous avons un sermon que j'ai donné, « Les 10 commandements étaient-ils en vigueur avant Moïse? » Et vous pouvez le trouver sur notre site web si vous tapez ces mots. C'était en 2018 que ce sermon a été donné, montrant que beaucoup de gens savaient qu'il était mal de tuer, mal de voler, mal de commettre l'adultère. Toutes ces choses étaient bien connues bien avant l'arrivée de Moïse. Mais Dieu œuvrait de diverses manières au cours de ces 2500 ans. Nous pouvons nous reporter à Hébreux 1 et lire les versets 1 et 2. Hébreux 1, versets 1 et 2. Où il est écrit, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, par lui il a aussi créé l'univers. » Mais ces premiers mots, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, mentionnent les prophètes, mais cela remonte à bien avant, car par des rêves, par des visions, par des contacts directs, Dieu parlait aux gens dans les temps anciens. Mais pendant plus de 2500 ans, il n'y avait aucune trace écrite à laquelle nous puissions nous référer. Au cours des 1500 années suivantes, de l'époque de Moïse à l'époque du Christ, nous constatons que Moïse et les prophètes ont laissé des traces écrite. Mais la Bible n'était pas complète. Ainsi, pendant 4000 ans, la Bible n'était pas complète, c'est-à-dire qu'elle ne transmettait pas l'intégralité du message. La compréhension du Messie à venir n'était pas complète. Les prophètes mineurs et les autres prophètes ont écrit pendant une période d'environ 1000 ans, depuis l'époque de Moïse, vers la fin des 1500 avant Jésus-Christ, jusqu'aux années 400 avant Jésus-Christ. Les prophètes mineurs et les autres prophètes ont écrit et consigné diverses choses. Ainsi, l'Ancien Testament n'était pas accessible quotidiennement à l'homme moyen. L'homme moyen ne pouvait pas lire la Bible, comme vous et moi pouvons le faire aujourd'hui. Nous tenons cela pour acquis, comme s'il en avait toujours été ainsi, mais ce n'était pas le cas. Par exemple, si nous nous reportons à Deutéronome 17, nous y trouvons les instructions données au roi futur. Nous lisons ici au verset 18, Deutéronome 17, verset 18, « Quand il, le roi, s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. » Ainsi, les sacrificateurs et les Lévites étaient en possession des livres de la loi, y compris le livre du Deutéronome. C'est une prophétie qui précède cet événement. Nous constatons donc qu'il n'y avait pas d'exemplaire disponible pour qu'ils puissent simplement aller le prendre sur une étagère. Ils devaient l'écrire, et bien sûr, il y avait une raison pour laquelle ils devaient l'écrire. Il aurait pu demander à quelqu'un d'autre de l'écrire. Néanmoins, nous constatons que les sacrificateurs et les Lévites n'ont pas fait beaucoup de copies. Nous pouvons également lire dans Deutéronome 31, Deutéronome 31, versets 10 et 11, et nous lisons cela parfois même lors de la fête. Dans Deutéronome 31, verset 10, Moïse leur donna cet ordre, tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. C'est ainsi que la loi était communiquée à bien des égards. Elle était lue, certes pendant la fête, mais l'ensemble de la loi, au moins le livre du Deutéronome, était lu pendant la fête des tabernacles tous les 7 ans. C'est ainsi qu'elle était communiquée aux gens. Dans 2 Chroniques 34, nous trouvons une autre indication de la rareté de la loi. 2 Chroniques 34. Et nous lirons les versets 14 et 15. 2 Chroniques 34, versets 14 et 15. C'est l'époque de Josias, et il dit, au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel, et Ilkija donna le livre à Shaphan. Il y a donc eu une époque où le livre de la loi avait été perdu ou mis de côté. À cette époque, le temple était tellement encombré qu'il fallut le débarrasser de tous les débris. Et ce faisant, ils sont tombés sur la loi de Dieu. Si c'est le cas, la loi de Dieu n'était pas très bien enseignée à l'époque. Il est intéressant de constater à quel point la parole de Dieu était rare pendant les 4000 premières années. Le fait est que la parole de Dieu n'était pas complète pendant 4000 ans et elle n'était pas lue par l'homme ordinaire. Maintenant, permettez-moi de reprendre le sermon de M. Armstrong. Jusqu'à la fin du premier siècle, la Bible n'était pas complète. Il n'y avait pas d'imprimerie. Chaque copie devait être écrite soigneusement, lentement, une copie à la fois. à la main et par des copistes. Les copistes n'étaient pas très nombreux. Le commun des mortels n'en a jamais vu une. Une grande partie de la Bible n'avait pas été révélée, en particulier l'Apocalypse. Les trois premiers épîtres de Jean, ainsi que le livre de Jude. Et la plupart des membres de l'Église primitive n'avaient jamais vu ces livres. Ils s'étaient éloignés de la vérité telle qu'ils l'avaient reçue des apôtres, et à l'époque où Jude écrivit, il exhortait les gens à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, parce qu'ils s'en éloignaient. Donc, si nous nous arrêtons et réfléchissons, si nous prenons cette vue à 10 000 ou 30 000 pieds et que nous regardons l'ensemble de l'humanité, nous constatons que pendant 4000 ans, ils avaient une Bible incomplète. L'Ancien Testament était en quelque sorte complet, mais très peu de gens y avaient accès. Lorsque nous lisons que l'eunuque éthiopien possédait un rouleau d'Ésaïe, il devait s'agir d'un homme assez riche ou assez aisé, car le commun des mortels n'avait tout simplement pas accès à ce livre. Il pouvait se rendre à la synagogue pour entendre la lecture du livre, il pouvait même l'ouvrir dans une bibliothèque, mais il n'en avait pas une chez eux sur une étagère, du moins pas le commun des mortels. Lorsque nous arrivons au 1er siècle, à l'époque d'Éphèse, nous constatons que le Nouveau Testament était en cours de rédaction à cette époque. Certains de ces livres ont été écrits dans les années 50 et 60 de notre ère, d'autres plus tard, dans les années 90, ce qui signifie que certaines personnes ayant vécu à l'époque d'Éphèse n'ont jamais vu la Bible dans son intégralité. En 135 après Jésus-Christ, l'Église était tellement envahie par ce que nous appelons aujourd'hui le catholicisme qu'il y avait des gens comme Polycrate et Polycarpe qui luttaient pour la vérité contre une Église beaucoup plus grande, l'Église romaine de l'époque. Si l'on considère les choses sous cet angle, on se rend compte que les Juifs disposaient du Nouveau Testament et que les peuples de la Méditerranée en possédaient une partie. Mais il ne s'était pas répandu dans le monde entier comme la vérité peut se répandre dans le monde entier aujourd'hui. Permettez-moi de reprendre à nouveau les propos de M. Armstrong. La plupart des prophéties de la Bible se réfèrent à notre époque actuelle et concernent notre époque, non celle du 1er siècle ou du Moyen Âge. Combien de fois la Bible dit-elle « en ce jour-là » Telle ou telle chose arrivera. En ce jour-là. En ce jour-là, encore, et en particulier dans les prophéties de l'Ancien Testament, il s'agit de l'époque actuelle et de la période qui précède la seconde venue du Christ, la venue du Christ le Messie, et de ces événements et de ces jours qui précèdent la plus grande mission de l'Église, à savoir la mission qui nous a été dévolue. La mission actuelle de l'Église se trouve dans Matthieu 24, verset 14. Et je cite ici l'ancienne King James, cette bonne nouvelle du royaume, et c'est la même bonne nouvelle que Jésus a prêchée, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est très profond. Parce qu'il est facile de lire cela. Et le monde peut lire cela et dire, bien sûr, que cela est prêché dans le monde entier. Cela est le cas depuis 2000 ans. Mais pas l'évangile que Jésus a prêché, l'évangile du royaume de Dieu. Permettez-moi de lire un extrait d'Edward Gibbons. Vous avez tous entendu cette citation dans le passé, mais à la page 26, il fait cette déclaration. La doctrine du règne du Christ sur la terre. Ce n'est pas tout l'Évangile, je le comprends, mais c'est une partie de l'Évangile alors que le Christ régnerait sur cette terre. Commençant à être considérée comme une allégorie sérieuse, elle fut peu à peu considérée comme une idée incertaine et inutile, et fut enfin rejetée comme une invention absurde, hérétique et fanatique. Maintenant, quand M. Armstrong a souligné que l'Évangile n'avait pas été prêché depuis le 1er siècle, il savait de quoi il parlait. et ce n'est qu'au siècle dernier que le véritable évangile fut prêché de manière importante. Nous savons que la vérité a existé tout au long de l'histoire, tout au long des 2000 dernières années. Elle a toujours existé. Mais la plupart du temps, elle est restée en arrière-plan parce qu'ils ont été persécutés pendant 1260 ans, comme nous le lisons dans l'Apocalypse. Ils ont dû se cacher dans les montagnes, dans des grottes et dans d'autres endroits. Ainsi, la vérité que vous et moi comprenons aujourd'hui, que nous tenons pour acquise, n'était pas toujours disponible. Et elle n'était certainement pas accessible à la majorité de l'humanité. Elle s'est répandue dans certaines parties du monde. Nous ne savons pas avec certitude dans quelle mesure elle s'est répandue. Nous connaissons les Vaudois, nous connaissons d'autres personnes qui avaient au moins une partie de la vérité. Mais lorsque M. Armstrong est entré en scène, c'est pendant la cinquième ère de l'Église, l'ère de l'Église de Sardes. Et l'ère de Sardes était vraiment en désordre à bien des égards. Il se divisait en différents groupes. Il y avait Salem en Virginie occidentale. Il y avait un quartier général là-bas. Il y en avait un à Stanbury dans le Missouri. Il y avait la conférence de l'Oregon. Il y avait toutes ces différentes scissions qui se produisaient. Et il n'avait pas la vérité que nous comprenons aujourd'hui. Je me souviens d'avoir traversé Stanbury, Missouri, et d'avoir vu où se trouvait leur siège central, et d'avoir rencontré quelques ministres, pas là, mais dans la région de Kansas City. Je pense qu'une fois à St. Joe, nous avons rencontré l'un de ces ministres. Et ils n'ont pas la compréhension, ils ne comprennent pas ce que nous comprenons, ils ne comprenaient pas la seconde résurrection. Il y avait beaucoup d'autres choses qui manquaient. Et certains d'entre eux avaient une approche charismatique du type « parler en langue ». Nous l'avons découvert. Il n'a pas vraiment parlé en langue, mais il a fait une prière lorsque nous l'avons rencontré, très charismatique. Ainsi, M. Armstrong a rencontré beaucoup de problèmes dans ses premières années parce qu'il n'y avait pas la cohérence de la doctrine que nous comprenons aujourd'hui. Comprenait-il les viandes pures et impures? Oui, il comprenait cela. Tout le monde s'y conformait-il? Non. Il comprenait que les jours saints se trouvaient dans la Bible, mais les respectait-il? Non, pas la plupart d'entre eux. Certains d'entre eux les observaient. Les comprenait-il? Là encore, la réponse est non. L'ère de Sardes s'est répandue dans le monde entier. Nous avons rencontré certains d'entre eux en Amérique du Sud, en Afrique et ailleurs. Certains d'entre eux observent les jours saints et d'autres non. Mais vous savez, c'est intéressant, pendant toutes mes années dans l'Église, j'ai entendu parler d'autres personnes qui observent les jours saints. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui comprenait vraiment les jours saints comme le plan magistral de Dieu, comme nous le faisons. Peut-être y en a-t-il quelques-uns, mais c'est quelque chose de vraiment révolutionnaire pour l'Église de Dieu. M. Armstrong poursuivit. Les premiers apôtres interrogeaient Jésus sur ce temps. En d'autres termes, le temps de la fin. Ils savaient. Ils étaient quelque peu familiers avec les prophéties, en particulier les prophéties comme celles d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, ainsi que les prophètes mineurs, Osée, Amos, Michée, Daniel. Tous ces prophètes, et combien de fois ils ont dit « en ces jours-là ». Jésus leur dit « si je m'en vais, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Il leur parlait du royaume de Dieu, et il les enseignait dans une parabole. Il ne la mentionne pas ici, mais c'est Luc 19, la parabole des mines. Qu'ils devaient aller au ciel pour recevoir le royaume et ensuite revenir, et que nous devions nous occuper ou continuer l'œuvre qu'il nous confiait jusqu'à ce moment-là. C'est facile de lire furtivement tout cela. Mais nous devons continuer l'œuvre jusqu'à ce moment-là, jusqu'à son retour. Le septième chapitre de Daniel parle des quatre bêtes qui se lèveront. Il parle aussi du royaume de Dieu, du gouvernement de Dieu qui sera établi sur cette terre, et du royaume qui sera donné aux saints du Très-Haut. Daniel 7, versets 13 et 14. Daniel 7, versets 13 et 14. J'avais m'y reporter et le lire, car je sais que la plupart d'entre vous le connaissent, mais certains ne le connaissent peut-être pas. Mais lorsque Jésus a dit que le noble devait aller dans un pays lointain pour recevoir pour lui-même un royaume, nous lisons dans la prophétie que cet événement réel s'est déroulé d'une manière prophétique. Daniel chapitre 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination. Remarquez, c'est celui qui ressemble au fils de l'homme, qui se désignait lui-même comme le fils de l'homme lorsqu'il marchait sur cette terre. Et il va vers l'Ancien des jours, il va vers un autre être là. Et on lui donna la domination, la gloire et le règne. Il a reçu un royaume, afin que tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Ce royaume implique tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues. Lorsque nous examinons la propagation de l'Évangile par l'intermédiaire de la véritable Église au cours de l'histoire, nous constatons qu'elle n'est pas allée dans des endroits très éloignés. Elle est allée dans la région de l'Europe, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient dans une certaine mesure. Peut-être jusqu'en Inde, mais il y a encore énormément de gens qui n'ont jamais encore entendu parler de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit ici, verset 14, « Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » Puis, au verset 27, il est dit, « Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » Vous savez, cela n'a pas été généralement compris par les gens aujourd'hui ou au cours de l'histoire. Mais même les prophètes n'ont pas compris ce qu'ils ont écrit. Beaucoup d'entre eux ont rapporté des choses qu'ils ne comprenaient pas. Pensons-nous vraiment qu'Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel comprenaient tout ce qu'ils ont écrit? Eh bien, regardez Daniel 12, verset 4, une déclaration très spécifique ici, Daniel 12, verset 4. « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Ferme-le, scelle-le. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Ce que nous voyons certainement aujourd'hui. Et ensuite au verset 9, il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Ainsi, les paroles de Daniel, de son livre, ont été scellées et fermées jusqu'au temps de la fin. Vivons-nous au temps de la fin? Oui ou non? Je pense que nous reconnaissons que oui, nous vivons au temps de la fin. Et les quelques 100 dernières années pourraient être incluses dans les temps de la fin et les années qui sont encore devant nous. Nous devons nous poser une question. Jean pouvait-il comprendre ce qu'il a vu et consigné dans le livre de l'Apocalypse? Donc, tout ceci a été conçu, écrit et donné pour un temps encore dans le futur. Peut-être que M. Armstrong comprenait davantage de choses que nous ne le réalisons, que la Bible et tout est orienté vers ce temps. Beaucoup de choses n'étaient pas comprises, et une grande partie n'était pas écrite pendant 4000 ans. Et maintenant, nous constatons que les 2000 dernières années furent marquées par la persécution. Ainsi, le véritable peuple de Dieu a dû se cacher pour la majorité de ce temps jusqu'à ces dernières années. L'œuvre que M. Armstrong accomplissait, que Dieu accomplissait à travers lui, a commencé par des débuts très modestes, avec très peu de personnes. Après avoir été ordonné, il a eu l'opportunité d'aller sur une station de radio. Quelqu'un lui dit qu'il cherchait des prédicateurs pour participer à une émission de radio à 6 heures le matin, pendant 15 minutes, ce qu'il fit pendant un certain temps. Puis les gens ont commencé à écrire à la station et le directeur de la station a dit, « Écoutez, pour $2,50, nous vous donnerons une émission d'une demi-heure tous les dimanches. » Quelle était la taille de cette station? Nous avons tous entendu M. Armstrong dire, « Une station radio de 100 watts. » Savez-vous ce qui m'a frappé l'autre jour? Avez-vous déjà vu une ampoule de 100 watts? C'est de cela qu'il s'agit. Lorsqu'on y pense, quand on dit une station de radio de 100 watts, on parle d'une station de radio qui a la puissance d'une ampoule électrique. Bien sûr, il peut y avoir des détails techniques qui permettent d'aller bien au-delà de ce que peut faire une ampoule. Mais n'est-ce pas intéressant? C'est ainsi que l'œuvre a commencé à petite échelle, et M. Armstrong le savait, il en a parlé. Mais c'est très différent d'une station de radio de 50 000 watts, et je crois qu'il y en a quelques-unes dans le monde de 100 000 watts. Mais les stations de 50 000 watts étaient les plus grandes permises. Je ne suis même pas sûr que ce soit le cas aux États-Unis ou à l'époque, parce que certaines d'entre elles se trouvaient au Mexique. Quoi qu'il en soit, tout a commencé par une station de radio de 100 watts. L'œuvre s'est développée au point de compter des centaines de congrégations sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. À travers le monde entier, ce qui n'avait jamais été fait, pour autant que nous le sachions. Il n'y a aucune preuve que l'Évangile ne fut jamais répandu aussi loin qu'il l'était au cours du siècle dernier. Des centaines de congrégations sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Il y avait plus d'un millier de ministres. Je ne connais pas le nombre exact. Il semble qu'il y en avait environ 1400. Ils n'étaient pas tous à salaire, mais ils étaient environ 1400 à un moment donné. Peut-être que quelqu'un a le chiffre exact à ce sujet. La fréquentation de la fête était d'environ 156, 157, 158 000 personnes à son apogée. Nous ne parlons pas ici des personnes qui écoutaient sur Internet ou par téléphone. Nous parlons de personnes qui étaient assises dans l'auditoire. C'est dire l'ampleur qu'avait prise l'Église. Il y avait trois campus. Des campus collégiaux de l'ambassadeur collège. De beaux campus, bien entretenus. Ils n'étaient pas petits. Ils étaient petits par rapport aux grands, mais ils ne se limitaient pas à un seul bâtiment. Cela a commencé comme ça, mais cela ne s'est pas terminé comme cela. La revue La Pure Vérité était publiée 12 fois par année. 8,4 millions de revues par mois à l'apogée de l'Église. M. Armstrong faisait des apparitions personnelles auxquelles assistaient littéralement des milliers de personnes. Je pense qu'aux Philippines, à Manille, il y avait environ 4500 personnes. Ces personnes n'étaient pas nécessairement toutes intéressées. Vous allez dans ces autres pays et ils vous trouveront un auditoire. Le dirigeant Ferdinand Marcos, président à l'époque, remplissait l'auditoire, même s'il devait les payer. Néanmoins, M. Armstrong parlait de la vérité à 4500 personnes aux Philippines. Il y avait d'autres grands auditoires dans d'autres endroits. À la radio, l'émission Tomorrow's World, ou plutôt The World Tomorrow, couvrait les États-Unis et le Canada. Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là à cette époque, vous ne pouviez pas traverser le pays sans entendre la voix de M. Herbert Armstrong ou de son fils, et généralement à plusieurs reprises. Peu importe l'endroit du pays, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, n'importe où, à n'importe quelle heure du soir. Quand je dis n'importe où, je suppose qu'il y avait probablement des zones blanches où il n'y avait pas de signal, mais pour l'essentiel, vous pouviez conduire n'importe où et entendre ces voix qui étaient claires comme de l'eau de roche. Leur voix se démarquait tout simplement. L'une des choses intéressantes qui font partie de l'héritage de l'Église est que quelqu'un pouvait acheter un envoy. L'envoy était l'album de fin d'année des campus de l'ambassadeur collège. Vous pouvez voir qu'il est assez grand, assez lourd. Voici l'envoy de 1966. C'était la première année où ma femme et moi étions au collège, en 65-66. Et vous y verrez quelques jeunes gens familiers si vous les cherchez. Mais c'était une belle publication, avec des photos en couleur et tout le reste. C'était une très belle production. Et d'une manière ou d'une autre, cela a attiré l'attention du roi Léopold III de Belgique. Il s'agissait de quelqu'un en Allemagne qui était associé au photographe de l'Église, qui connaissait le roi et qui lui a montré l'ouvrage. Lorsqu'il a vu l'envoi de 1966, sa réaction a été la suivante. « Je veux rencontrer l'homme qui est derrière tout cela. » C'est ainsi qu'une visite de M. Armstrong avec le roi Léopold de Belgique a été organisée. Je me souviens que j'étais au collège à l'époque. Je ne me souviens pas de l'année exacte, mais c'était vers l'année 1967-1968. Je ne suis pas sûr de l'année exacte, mais c'était vers la fin des années 60. Je me souviens que M. Armstrong est revenu et il en a parlé. Et je ne sais pas si c'était cette visite ou une autre qui était organisée et où il avait expliqué à l'avance les restrictions alimentaires et il y avait ce gros rôti de porc. Si je mentionne cela, c'est parce que certains ont mal expliqué ce qui s'est passé à ce moment-là. Je me souviens très clairement, parce que j'étais dans l'auditoire lorsque M. Armstrong l'a expliqué, c'était dans le gymnase où nous avions les assemblées de sabbat, et c'était dans ce gymnase, mais il s'agissait peut-être d'un forum qu'il avait organisé. Mais il fut horrifié lorsqu'il a vu cela, il ne savait pas quoi faire. Il en a coupé un petit morceau, qu'il a mis dans sa bouche, puis il était pour prendre sa serviette, l'enlever et se remplir les poches de porc. Mais il s'est rendu compte que c'était de l'agneau. Cela ressemblait à du porc, mais c'était de l'agneau, et il s'en est rendu compte en le portant dans la bouche. Il n'allait donc pas le manger, mais comment faire en présence d'un roi? Certains pourraient le critiquer pour cela, mais c'est ce qui s'est passé. C'est l'histoire qui s'est déroulée. Certains ont dit qu'il avait mangé du porc, et ce n'était pas le cas du tout. Mais il a pris soin de les informer à l'avance de ses restrictions alimentaires. Après avoir vu le roi Léopold, celui-ci avait des contacts avec d'autres dignitaires, et le roi a parlé à d'autres de cet invité intéressant qu'il avait reçu, et d'autres personnes ont alors commencé à inviter M. Armstrong pour venir les voir et leur parler. Il a compris qu'on ne se présente pas devant un roi sans apporter un cadeau, et qu'on ne lui apporte pas un stylo Bic ou une photo de soi-même. Vous leur apportez quelque chose de valeur. Ce n'est pas ce qui ouvre la porte. Vous savez, ces gens reçoivent toutes sortes de cadeaux, et ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent. Mais il leur a donné du cristal de Steuben. Ce n'était pas bon marché. Pour le commun des mortels, cela pourrait être cher, mais ce n'était pas un cadeau onéreux à offrir à ces personnes. Il a reçu des cadeaux d'autres personnes, par exemple les pains qu'il a reçus du roi et de la reine de Thaïlande, qui étaient probablement d'une valeur bien supérieure. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est pourquoi, lorsque les mages ont vu le Christ enfant et l'ont rencontré après sa naissance, puisqu'un certain temps s'était écoulé, ils lui ont offert des présents, non pas pour marquer son anniversaire, mais parce qu'il était roi. Certaines personnes à l'esprit étroit ne peuvent pas comprendre ces choses. Mais la nouvelle s'est répandue et il a commencé à voir plus de gens. Il a reçu davantage d'invitations. Permettez-moi de vous donner une courte liste. Il a rendu visite à Menachem Begin, le premier ministre israélien, ainsi que Golda Meir, première ministre israélienne, l'une des trois grandes femmes du XXe siècle. Le maire de Jérusalem, Teddy Kollek, est un ami très proche de M. Armstrong, se sont rencontrés à de nombreuses reprises. Mais il n'y avait pas que les Israéliens. Le président égyptien Anwar el-Sadat, qui a été assassiné plus tard parce qu'il avait fait la paix avec Israël, a invité M. Armstrong. Son successeur, Hosni Moubarak, encore une fois président égyptien, était présent et a vu M. Armstrong. Le roi Hussein de Jordanie en était un autre. Et nous avions d'excellentes relations avec les Jordaniens, avec le roi, avec la reine et d'autres. En Asie, le prince Mikasa, frère de l'empereur Hirohito, ainsi que l'empereur japonais Hirohito, figurent sur la liste de ceux qui ont invité M. Armstrong. Ce dernier a en fait vu 7 premiers ministres japonais au cours des 18 ou 19 ans pendant lesquels il fut invité a rencontré certains dirigeants mondiaux. Pensez-y, 7 premiers ministres japonais. Il a survécu à plusieurs d'entre eux. Ils n'ont pas dû durer très longtemps pour qu'il y en ait autant pendant cette période. En Afrique, il a rencontré le fondateur du Kenya, Jomo Kenyatta, l'empereur éthiopien, Haile Selassie, l'un des deux seuls à avoir porté ce titre d'empereur dans le monde à l'époque, Haile Selassie et Hirohito. En Europe, au Royaume-Uni, il a rencontré la première ministre Margaret Thatcher, ainsi que le prince Charles de l'époque, aujourd'hui roi, et le roi d'Espagne, Juan Carlos. Et cela ne fait qu'effleurer la surface de toutes les personnes, les rois, les premiers ministres, les dirigeants, les petits dirigeants qui se trouvaient dans le monde à cette époque. Mais le plus important, c'est que Dieu l'a utilisé d'une manière qu'il aurait pu utiliser, je suppose, quelqu'un d'autre, mais il ne l'a pas fait. Il n'aurait certainement pas pu m'utiliser de cette manière. Je ne veux pas limiter Dieu, mais il utilise des gens qui ont certains talents. Et il a utilisé M. Armstrong en raison de ses antécédents. Parce qu'il a probablement commencé à travailler avec lui bien avant qu'il ne s'en rende compte. Mais il l'a utilisé pour susciter une ère différente de l'Église, ce que nous croyons être l'ère de Philadelphie de l'Église de Dieu. Lorsque nous pensons aux doctrines qui ont été rétablies, qui avaient été perdues ou oubliées, ou qui n'avaient jamais été comprises, il y a toute une liste. Nous avions l'habitude de dire qu'il y avait 18 doctrines que Dieu avait rétablies par l'intermédiaire de M. Armstrong. C'était un chiffre flou, même lorsqu'il l'a donné. Vous devez décider si c'est une doctrine distincte ou non. Et d'autres doctrines ont été mentionnées à d'autres moments. Mais pensez-y, le véritable évangile du royaume de Dieu, comme je l'ai lu dans le livre d'Edward Gibbons, l'idée que le Christ reviendrait pour régner sur la terre était considérée comme une hérésie après un certain temps. Pourtant, le véritable évangile du royaume de Dieu doit être prêché dans le monde entier comme témoignage à toutes les nations. Le véritable évangile, ce qu'il est dans son intégralité, vous ne le trouverez pas simplement sous la forme d'un règne millénaire. Mais le véritable évangile, c'est la famille de Dieu, le gouvernement de Dieu, quelque chose dans lequel vous devez naître. Et ce tableau d'ensemble n'est pas compris dans le soi-disant christianisme d'aujourd'hui. Il est absent. Il n'est tout simplement pas là. Ils ne comprennent pas le véritable évangile. Et que comprenait-on à l'ère de Sardes? Apparemment, ils ne comprenaient pas autant que nous comprenons aujourd'hui. Le dessein de Dieu pour l'homme, que Dieu se reproduit lui-même, que l'homme peut naître dans la famille de Dieu. C'est quelque chose qui n'est compris par personne d'autre que ceux qui passèrent par l'Église universelle de Dieu ou qui l'apprenaient de M. Armstrong. Cela n'existait tout simplement pas. Il n'a pas appris cela à l'époque de Sardes. Ils ne l'ont pas compris. Lorsqu'il a commencé à comprendre, il en a parlé à des hommes comme le Dr. Meredith, le Dr. Hay, Raymond Cole et d'autres qui étaient là. Il a dit, « Mes amis, je commence à voir quelque chose, mais cela semble presque hérétique, et je ne veux pas enseigner l'hérésie. Voulez-vous étudier ce sujet, s'il vous plaît? » Ils ont d'abord pensé que c'était assez extravagant jusqu'à ce qu'ils l'étudient. Mais vous savez, lorsque nous regardons les Écritures de Romains 8 et de Hébreux 2, c'est assez évident. Ou même 2 Corinthiens 6, versets 18 à 20, où il est question de fils et de filles. Il y a tellement de preuves de ce que nous deviendrons. Nous ne serons pas des anges qui s'envolent avec des ailes quelque part. Le monde ne comprend pas cela. Et l'ère de Sardes ne l'a pas compris non plus. Nous ne savons pas s'ils l'ont compris à l'époque éphésienne ou à d'autres époques. mais même les apôtres et les autres personnes qui ont écrit le Nouveau Testament. Ils ont écrit ces choses, mais les comprenaient-ils? Peut-être que Paul l'a compris. Il est très probable qu'il le comprenait, mais est-ce que tout le monde l'a compris? Et combien de temps s'est-il écoulé avant que cela ne se perde avec l'apostasie qui a eu lieu vers la fin du premier siècle et au début du deuxième siècle? Le magistral plan de Dieu donné par les jours saints. Nous tenons cela pour acquis. Nous pouvons le prouver. Nous pouvons montrer ce que signifie la Pâque. Nous savons ce que signifient les jours de pain sans levain. Mais combien de personnes le savent? L'air de Sardes ne le savait pas. Il ne le comprenait pas. Il connaissait les jours saints. Mais les comprenait-il? Il est intéressant de noter que lorsque l'apostasie s'est installée au cours des dernières années, dans les années 1990, nous avions des gens à Kansas City qui ne voulaient pas observer les jours saints, qui ne croyaient pas que nous devions garder les jours saints. Et d'où tenaient-ils certaines de leurs convictions? De l'Église de Dieu du septième jour? C'est intéressant. Le magistral plan de Dieu, nous le tenons pour acquis. Nous ne devrions pas. Et le gouvernement? Sardes ne comprenait pas le gouvernement. Il ne comprenait pas qu'il s'agissait d'une nomination. Il pensait que c'était par scrutin. Et cela se termine toujours par de la politique et tout le reste. Mais le bon gouvernement, et même M. Armstrong ne le comprit que bien plus tard. Connaissez-vous la plus longue lettre que M. Armstrong ait jamais écrite? Elle portait sur ce sujet. Pourquoi mon article de 1939 sur le gouvernement était-il erroné? Cette lettre faisait 30 pages. 30 pages. J'en ai une copie quelque part. Nous l'avons peut-être à la bibliothèque. Nous devrions l'avoir quelque part. Elle porte la date du 2 mai 1974. C'est la date à laquelle il l'a écrite. C'est intéressant parce que 21 ans plus tard, jour pour jour, un autre groupe de personnes a choisi le gouvernement contre lequel il avait écrit. Il est parfois intéressant de regarder en arrière, même pour les dates, 3 × 7. Ils ont choisi la même chose qu'il a passé le plus de temps dans une lettre à essayer d'enseigner le peuple de Dieu, et c'était au sujet du gouvernement. Qui et qu'est-ce que Dieu? La plupart des gens dans le monde pensent que Dieu est une trinité. Mais nous comprenons que Dieu est une famille. Jean 1, versets 1 à 3, le dit si simplement. Et pourtant, je sais que j'ai lu cela à des personnes intéressées par l'Église, et ils ne comprennent tout simplement pas. Ils n'arrivent pas à saisir ce que cela signifie. Mais si vous pouvez le comprendre, il est évident que Dieu travaille avec vous. Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, ou le porte-parole, le logos. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Il nous dit ensuite que toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous pourrions dire qu'il s'agit là d'une autre doctrine qui n'est pas bien comprise. Qui est le Dieu de l'Ancien Testament? Les érudits le comprennent. Ils le comprennent. Mais c'est juste qu'ils n'aiment pas beaucoup le prêcher, parce que cela sape leur idée que la loi est abolie. Mais qu'est-ce que l'homme et pourquoi existe-t-il? M. Armstrong a dit dans le sermon auquel j'ai fait référence, « Pourquoi sommes-nous sur terre? » L'Église de Sardes ne le savait pas. Il ne le savait pas non plus au Moyen Âge. L'homme fut créé à partir de la poussière du sol. L'homme fut créé avec un esprit, et il a besoin d'un autre esprit, l'esprit de Dieu qui l'unit à Dieu, et qui est l'imprégnation de la vie de Dieu en lui, et il naîtra de Dieu. Cela n'est pas toujours compris. Dans 1 Jean 3, au verset 9, 1 Jean 3, verset 9, où il est dit « Quiconque est né, et ce mot peut être né ou engendré, il devrait être engendré dans ce cas-ci, de Dieu ne pratique pas de péché. » Il s'agit de la pratique mais certains ne seraient peut-être pas d'accord avec cela. Mais d'une manière ou d'une autre, ce que je veux dire ici, c'est que quiconque est né de Dieu ne pèche pas, car sa semence, sa, c'est-à-dire la semence de Dieu, et le mot pour semence ici est sperma, demeure en lui et il ne peut pécher, parce qu'il est né ou a été engendré de Dieu. Si nous regardons Romains 8, c'est une vérité simple que nous comprenons, mais qui n'était pas comprise avant. Romains 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Remarquez, « fils de Dieu ». Et pourtant, la plupart des gens prennent cela comme une expression figurée. Paul ne pensait pas vraiment ce qu'il disait. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit de Dieu, lui-même rend témoignage à notre esprit, c'est-à-dire qu'il s'unit à nous comme un spermatozoïde à un ovule. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Comme c'est étonnant, comme c'est simple. Et pourtant, peu de gens semblent capables de le comprendre. Nous sommes engendrés maintenant. Nous ne sommes pas encore nés. La nouvelle naissance à la résurrection est une autre doctrine. Combien de personnes pensent que naître de nouveau est une expérience émotionnelle ou une expérience de conversion au cours de cette vie? Et pourtant, dans 1 Corinthiens 15, 54 nous dit que le corps mortel doit revêtir l'immortalité. Nous n'avons pas encore l'immortalité. Nous naissons de nouveau à la résurrection, pas aujourd'hui. L'identité d'Israël était connue dans une certaine mesure. M. Armstrong n'a pas été le premier à comprendre cela. Il s'est beaucoup inspiré de Judah's Scepter and Joseph's Birthright de J.H. Allen, et certains l'ont critiqué parce qu'il a emprunté à cela, pour ainsi dire. Mais M. Armstrong a compris que l'identité d'Israël se trouve principalement dans les Écritures. Dans le livre de la Genèse et ailleurs, dans 1 Chronique 5. C'est quelque chose qui, à ce jour, n'est toujours pas compris par le monde, excepté vraiment par très peu de personnes. Et la plupart d'entre elles sont issues de l'œuvre que Dieu accomplissait par l'intermédiaire de M. Armstrong. 1 Chronique 5, verset 1. Il dit « Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Le droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. » Il s'agit d'une prophétie depuis cette époque qui disait qu'en réalité le Messie viendrait de Juda, et aussi toute une lignée de rois, comme nous le voyons dans les Écritures à ce sujet. Mais il devait venir de Juda, même si le droit d'aînesse appartenait à Joseph. Il est étonnant de voir à quel point peu de gens comprennent cela. Ils parlent d'Israël et de Juda comme s'il s'agissait de la même chose. Les Juifs et Israël, comme c'était la même chose. Ce n'est pas compris, et l'ère de Sardes ne le comprenait pas. Donc, que M. Armstrong ait été le premier à le comprendre, ce qui n'est pas le cas, ou qu'il l'ait simplement, pour ainsi dire, apporté à l'Église, cette doctrine était inconnue de l'ère de Sardes. Et pourtant, nous la tenons pour acquise aujourd'hui. Et bien sûr, nous avons une brochure sur le sujet. Cette identité ouvre notre compréhension de la prophétie biblique. Nous ne comprendrions pas la prophétie biblique sans cette clé de compréhension. La deuxième et troisième dîme. Quelles sont les églises qui comprennent cela? Le but de la deuxième dîme est de nous permettre de célébrer la fête. Nous savons qu'au cours du millénium, la fête sera célébrée. La deuxième dîme est la façon dont Dieu la finance. Et pour ceux qui ont besoin d'aide, comme les veuves et les autres, il y a la troisième dîme. Est-ce quelque chose qui n'était pas compris? Non, certains commentaires reconnaissent qu'Israël avait trois dîmes. Mais qui les pratique? Qui les comprend? L'identité de Babylone et de ses filles. Je trouve toujours cela intéressant parce que beaucoup de gens reconnaissent qu'Apocalypse 17 parle de l'Église romaine. Ils le comprennent. J'aime donc poser la question et je leur dis que c'est la question la plus importante que je puisse vous poser aujourd'hui. Si vous savez qui est la grande prostituée décrite dans Apocalypse 17, qui sont les filles prostituées? Et cela leur passe directement au-dessus de la tête. Ils ne comprennent pas. Est-ce que Sardes l'a compris? Je n'en sais rien. Mais ce que nous savons, c'est que cela fait partie de notre héritage et que nous comprenons cela. Nous devons être séparés du monde. Et pourtant, celui qui a conduit l'Église de Dieu à l'apostasie dans les années 1990 a dit « Je n'aime pas être considéré comme une secte. En d'autres termes, je veux être un peu plus grand public, je veux être comme les autres églises. Mais nous devons être séparés, nous devons être saints, c'est ce que cela signifie. » Alors, frères et sœurs, quel est le but de tout cela? Quel est l'intérêt de toutes ces doctrines dont nous parlons ici? Vous et moi sommes bénis d'avoir plus de compréhension que les serviteurs de Dieu n'avaient pendant presque toute l'histoire de l'humanité. Et je pense que lorsque nous considérons les choses sous cet angle, nous devons en conclure que c'est le cas. La Bible n'était pas disponible pour eux. Ils étaient persécutés. Ils s'accrochaient. Ils étaient des individus fidèles qui donnèrent leur vie aux flammes en tant que martyrs. C'étaient des gens fidèles et merveilleux, mais avaient-ils toutes les choses que nous avons? Avaient-ils la capacité d'apporter l'Évangile au monde? Cela était réservé à une époque beaucoup plus tardive. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec les communications de masse et les voyages tels que nous les connaissons, que les doctrines furent restaurées alors qu'elles avaient été perdues. Dans de nombreux cas, simplement oubliées ou jamais comprises. Ce n'est qu'au XXe siècle et maintenant au XXIe siècle que nous avons la bénédiction de disposer d'une quantité considérable de connaissances. Nous pouvons regarder le XXe siècle et constater une résurgence extraordinaire de la compréhension doctrinale et une croissance des membres sans précédent depuis le premier siècle de notre ère. L'œuvre que Dieu accomplissait par l'intermédiaire de M. Armstrong était vraiment remarquable. Et nous sommes le fruit de cette œuvre. C'est notre héritage. Nous tenons pour acquises tant de ces doctrines. Je me souviens à l'époque où j'étais à l'ambassadeur collège lorsque M. Armstrong parvenait à la compréhension de l'esprit dans l'homme. Il savait que nous n'avions pas une âme immortelle. Et trop souvent, nous essayons de montrer ce que la Bible ne dit pas. Pendant que nous passons à côté de ce qu'elle dit. Et il a fini par comprendre qu'il y avait quelque chose de différent chez l'homme. Nous n'avons pas une âme immortelle comme l'enseigne le monde. Mais il y a un esprit dans l'homme. Nous pourrions nous contenter de citer un passage dans Ecclésiaste 12. Il y a plusieurs passages que nous pourrions citer à ce sujet. Mais je me souviens qu'il venait juste de comprendre cela alors que nous étions à l'ambassadeur collège. Ecclésiaste 12, verset 3 dit « Mais souviens-toi de ton Créateur. » Puis au verset 8, « Avant que le cordon d'argent se détache et que le vase d'or se brise, avant que tu ne meures, verset 9, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Oui, il y a un esprit dans l'homme. Il ne s'agit pas du Saint-Esprit à ce moment-là. Il s'agit d'un esprit dans l'homme qui nous différencie des animaux. Et M. Armstrong a lutté avec cela pendant plusieurs années. Il ne comprenait pas complètement. Mais il en parlait, Et il en parlait, et il ajoutait un peu plus, jusqu'à ce que nous regardions à 1 Corinthiens 2. Où il est question de l'Esprit de Dieu, tout comme l'Esprit de l'homme. L'Esprit dans l'homme donne à l'homme une compréhension que les animaux n'ont pas. De même, l'Esprit de Dieu nous donne une connaissance spirituelle. Nous regardons ces Écritures et elles font parfaitement du sens aujourd'hui. Nous les considérons comme allant de soi, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Mais nous sommes le fruit de l'œuvre que Dieu accomplissait par l'intermédiaire de M. Armstrong. Maintenant, avec cette compréhension, nous pouvons réagir de trois façons. Nous pouvons négliger notre appel et le rejeter. C'est ce qui s'est passé après la mort de M. Armstrong. Cela n'a pas pris longtemps. Vous lisez les Écritures de l'Ancien Testament et vous voyez comment Israël est retourné à l'idolâtrie et tout ce qui s'ensuit, et vous vous dites, comment ces gens peuvent-ils être aussi stupides? C'était moins de 10 ans après la mort de M. Armstrong, et l'Église était déjà plongée dans l'apostasie. Rejetant ces doctrines que nous venons de voir, et retournant à la croyance d'aller au ciel et de brûler en enfer, l'idée d'une âme immortelle, observer le dimanche au lieu du sabbat, observer les fêtes de ce monde, Noël, Ishtar, comme j'aime l'appeler, ou Halloween, ou tous ces jours, rejetant toutes les connaissances que vous et moi prenons pour acquises aujourd'hui. Ils les tenaient pour acquises, puis ils les ont laissées s'échapper. C'est ce qui s'est passé à l'époque, mais cela se produit tout le temps. Dans Matthieu 13, commençons verset 18. Verset 18, il parle de la parabole du semeur, et tout le monde entre dans cette catégorie d'une manière ou d'une autre, si tant est que nous ayons entendu la parole de vérité. Il y a de ceux qui n'ont jamais entendu, donc cela ne s'applique pas à eux. Mais au verset 18, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, remarquez qu'il s'agit vraiment d'un royaume. Et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Combien de fois voyons-nous cela? Je me souviens très bien d'une dame qui était si enthousiaste, ici dans la région d'Asheville, si enthousiaste à propos de la vérité. Et, vous savez, dès qu'il y a eu un peu de résistance de la part de son mari ou de sa famille, elle est partie. Verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution, il ne s'agit pas toujours d'être jeté au feu ou d'être pendu par les bras, mais d'une petite persécution, généralement verbale. À cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il s'agit là d'une question qui doit nous préoccuper davantage. Verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Oui, les soucis de ce monde, les choses dans lesquelles nous nous laissons entraîner. Il y a tellement de distractions aujourd'hui, la télévision, l'Internet, les médias sociaux, tout cela. Il y a tant de distractions, tout comme le fait de faire sa marque dans le monde, de devenir riche, et tous les divertissements, qu'il s'agisse du sport ou quoi que ce soit d'autre. Nous nous laissons prendre par tout cela, c'est facile, et la rendre infructueuse. C'est une façon de se perdre. Nous pouvons lire dans Matthieu 25. Matthieu 25 et le verset 24. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Voilà, tout est là. » Je l'ai caché et je n'ai rien fait. Et quelle fut la réponse du Christ? Au verset 26, son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux! Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Il dit donc, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Nous avons aussi la parabole des mines dans Luc 19. Qui a la même réponse? En d'autres termes, il dit, je vais partir. Faites des affaires jusqu'à ce que je revienne. Ne vous contentez pas de vous asseoir et d'attendre le royaume. Ne vous contentez pas de vous préparer, de préparer l'épouse. Mais ne faites rien d'autre. La mariée se prépare depuis 2000 ans. Dieu et le Christ attendent de nous que nous fassions quelque chose. Nous pouvons donc négliger notre appel. Nous pouvons nous la couler douce et oublier notre appel et tout perdre à la fin. Ou, deuxièmement, nous pouvons le considérer comme acquis. Nous nous sentons à l'aise, riches et enrichis par cette connaissance, et nous n'avons besoin de rien. Dans Apocalypse 3, cette attitude est décrite. Nous la connaissons tous. Apocalypse 3. Je sais que nous la connaissons. Je ne veux pas vous ennuyer avec cela. Je pense qu'il est important que nous l'examinions dans le contexte de la grande vue d'ensemble de ce qui se passe et de ce que Dieu fait à la fin de cet âge. Voici ce que nous lisons dans Apocalypse 3, verset 15, à propos des Laodicéens. Il dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » C'est intéressant car l'expression « je suis riche » peut avoir différentes applications. Il peut s'agir d'être riche au sens physique du terme, ou nous pourrions dire « regardez toute cette connaissance que nous avons en main, regardez toute cette vérité et regardez comment nous sommes justes et comme le monde est mauvais. » Nous pouvons adopter cette approche. Ce n'est pas la bonne approche. Mais nous pourrions penser « oh, j'ai tout, nous avons tout ce qu'il nous faut. » Nous connaissons la vérité, nous observons les jours saints, nous respectons le sabbat, nous sommes assis ici. Nous sommes tous justes. Mais nous verrons qu'ils ne sont pas justes. Mais encore une fois, rétrospectivement, nous croyons que Dieu utilisa M. Armstrong pour susciter l'ère de Philadelphie de l'Église. L'Église avec laquelle il est entré en contact se trouve dans Apocalypse 3, verset 1. Voici ce avec quoi M. Armstrong est entré en contact. Apocalypse 3, verset 1, écrit à l'ange de l'Église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Il s'appelait Église de Dieu. L'Église de Dieu du 7e jour. Mais il dit, « Et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste. » Ils avaient donc des vérités qui restaient. « Sois vigilant et affermis le reste, qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. » Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Mais il dit au verset 4, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. » Lorsque M. Armstrong est arrivé parmi eux, certains observaient le sabbat, les lois sur les viandes pures et impures. Ils n'observaient pas tous les jours saints, mais ils observaient la Pâque. Ils faisaient certaines choses, mais ils perdaient ces vérités. Et beaucoup de ces gens seront probablement dans le royaume de Dieu. Mais au fil du temps, ils ont perdu de plus en plus ces vérités dans cette Église. C'est pourquoi il a dit qu'il y a peu de gens. Il y en a peu. Nous ne devons pas les mépriser, nous devons être reconnaissants qu'ils se soient accrochés à la vérité aussi longtemps qu'ils l'ont fait, parce que l'Église de Dieu n'est jamais morte. Et il dit au verset 4, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. » Et ensuite, il parle de vaincre. Puis nous arrivons au verset 7, l'ère de Philadelphie, et il dit, verset 7, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Il est facile de passer sous silence toutes ces choses, mais remarquez, celui qui est saint, ou séparé, est pur, celui qui est véritable. Nous faisons souvent référence à la vérité. M. Armstrong a créé une revue, La Plain Truth, La Pure Vérité, parce qu'il prêchait simplement la vérité spirituelle, mais la vérité. Et il dit au verset 7, « Celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira, de quoi s'agit-il? » Eh bien, certains pensent qu'il s'agit de la connaissance de l'identité d'Israël. Mais reportons-nous à Ésaïe 22, verset 22. Ésaïe 22, verset 22, et vous verrez que la citation est presque exactement la même qu'ici. Il y a question du gouvernement. Le gouvernement, la responsabilité d'ouvrir et de fermer les voûtes et tout le reste, fut donnée d'une personne à une autre. Je te donnerai la clé de David. Eh bien, remarquons simplement ceci dans Ésaïe 22. Reportons-nous à Ésaïe 22, verset 22. Il prend la clé de Shebna et la donne à Eliakim. Et oui, c'est Eliakim ici. Et ici, au verset 22, il est dit, Ésaïe 22, 22, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. » Ils avaient souvent une grande clé, peut-être symbolique, mais possiblement qu'ils avaient des clés plus grandes à l'époque. Et il les mettait sur l'épaule. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Alors la clé de la maison de David, c'est du gouvernement dont il est question ici. L'ère de Philadelphie comprend-elle le bon gouvernement? Il dit dans Apocalypse 3, verset 8, Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, ou chrétiens pourrions-nous dire aujourd'hui, et ils ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Vous savez, c'était une nouvelle ère, une époque différente de celle que nous venons de lire. William Ramsay a écrit un livre en 1907, je crois, dans la première partie du siècle, intitulé « Les lettres aux sept églises ». En se référant spécifiquement à Philadelphie et à Laodicée dans ce cas, il dit « Mais il serait erroné d'en déduire que Philadelphie seule, parmi ces sept villes, avait une porte devant elle. » En d'autres termes, toutes les villes avaient une porte pour prêcher. Chacune de ces sept villes se trouvait à la porte d'un district. En vérité, chaque église avait sa propre opportunité, et les sept églises avaient des opportunités particulièrement favorables qui leur étaient offertes par la situation géographique et la commodité des communications. Mais remarquez, Philadelphie a été choisie parce que, dans son histoire, ce fait, sa relation avec les villes situées du côté proche du plateau central, avait été le facteur déterminant. Elle devait être prééminente parmi les sept villes en tant qu'église missionnaire. Il suffit de regarder l'histoire depuis le début de l'ère éphésienne, qui était clairement une église missionnaire, jusqu'à Philadelphie, en passant par les époques suivantes pour constater cette explosion de connaissances vers le monde, vers tous les pays du monde, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, faire des disciples de toutes les nations. Mais quand on compare Philadelphie et Laodicée, on dit « Pourquoi Laodicée a-t-elle échoué alors que Philadelphie a réussi à diffuser la langue grecque et plus tard l'Évangile dans les districts immédiats autour. Nous n'avons aucun moyen d'en juger. Nous ne savons pas pourquoi on a parlé de Laodicée de cette manière, mais tel était le cas. Nous ne le savons pas, mais nous savons que c'était le cas. Ils n'ont pas fait ce que Philadelphie a fait. Il est évident qu'à la fin des temps, deux attitudes au moins prévaudront au sein de l'Église de Dieu. Les conséquences de ces deux attitudes sont mentionnées dans les Écritures. Dans Apocalypse 3. Dans Apocalypse 3, verset 10, il est question de Philadelphie, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Ensuite, il dit aux Laodicéens, au verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Il s'agit clairement d'une référence à la tribulation, « afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. » Dieu ne déteste pas ces gens. Il dit, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Nous voyons donc une attitude qui consiste à s'accrocher à la vérité, à accomplir l'œuvre de la prédication de l'Évangile au monde en franchissant ses portes ouvertes, et nous voyons un autre groupe de personnes qui sont tièdes. Le problème, c'est qu'ils sont aveugles. Aujourd'hui, nous pensons que nous sommes le petit troupeau issu de l'époque de Philadelphie. C'est ça que nous croyons. Nous sommes le reste de l'ère de Philadelphie. Cela ne veut pas dire que nous le sommes. Parce que Laodicée est aveugle. Je crois que nous le sommes. Mais c'est une question individuelle. Quelle est mon attitude? Quelle est mon approche? Et quelle est la vôtre? Il reste à voir comment nous, en tant que corps de Christ, remplissons la mission qui nous est confiée à la fin des temps. Et j'essaie de souligner qu'il y a cette mission, dans un moment unique dans l'histoire que M. Armstrong comprenait, et nous devons aussi le comprendre. Il reste également à voir comment chacun d'entre nous répond à l'appel qu'il a reçu. Nous ne pouvons pas nous fier à l'endroit où nous sommes assis. Je me souviens avoir lu un livre écrit par quelqu'un qui disait que votre billet d'entrée pour le lieu de sécurité, et en fait pour le royaume de Dieu, était votre soutien à cette œuvre. C'est effrayant que les gens pensent ainsi. Ce n'est pas où nous sommes assis, c'est ce que nous faisons. Il y a beaucoup de gens qui ont une attitude laodicéenne parmi nous. Je n'en doute pas. Je ne sais pas qui ils sont. Mais je connais la nature humaine. J'espère simplement ne pas être l'un d'entre eux. Nous devons comprendre notre appel. Nous avons beaucoup de problèmes dans le monde aujourd'hui. Nous parlions du jeûne pour plusieurs raisons. Certains ont suggéré de le faire à l'occasion du 40e anniversaire, d'autres le suggéraient à cause des épreuves et des problèmes que les gens traversent. Lorsque nous appelons à un jeûne, nous nous posons la question du but de ce jeûne. Eh bien, certains ont fait remarquer que nous avons beaucoup de problèmes. Le Myanmar, des frères qui sont déplacés. Certains se cachent littéralement dans les montagnes. Voyez certaines des photos, il y a de la pluie. Vous pouvez qu'imaginer ce que c'est que d'être un sans-abri. Je veux dire, nous avons des sans-abri ici, ils ont choisi ce mode de vie, je suppose, où ils sont tellement drogués qu'ils ne savent plus ce qu'il en est. Mais au Myanmar, ce sont des gens qui croient comme vous et moi. Et ils se cachent dans les montagnes parce qu'ils ne veulent pas être conscrits, être forcés de se battre ou de mourir, parce qu'ils sont des objecteurs de conscience. certaines personnes plus âgées, qui n'ont pas l'âge de la conscription, ont dû quitter leur domicile, sans savoir si celui-ci sera encore là à leur retour, et s'installer chez un membre de la famille, où ils sont tous entassés dans une même maison. Sommes-nous prêts à faire cela, frères et sœurs? Sommes-nous prêts à ouvrir notre maison les uns aux autres de la même manière? En Haïti, des gangs armés contrôlent toujours un État en déliquescence, et nos frères et sœurs doivent se réunir en ligne chaque semaine. Ils doivent sortir pour aller chercher de la nourriture à un moment ou à un autre. C'est un état très dangereux dans lequel ils se trouvent, et ce depuis un certain nombre d'années maintenant. M. Christian Orrego a fait un rapport sur Cuba. Depuis 2023, il est impossible d'effectuer des visites ministérielles à Cuba en raison de la pénurie de pratiquement tout ce qui est nécessaire. Eau, électricité, nourriture, carburant, etc. Les villes sont complètement sales, parce qu'il n'y a pas de carburant pour les camions de ramassage des ordures. Les gens tombent malades et beaucoup meurent en raison d'un manque de soins médicaux et de médicaments. Les hôtels manquent de la plupart des produits alimentaires, et les draps ne sont pas nettoyés en raison de la pénurie de détergents et d'eau. Et cela dure depuis 2023, soit depuis 2 ou 3 ans. La Jamaïque se remet encore de l'ouragan Melissa. La vie continue. Mais pour rappel, dans les zones les plus touchées par l'ouragan, le vent soufflait à 185 milles à l'heure, soit près de 300 km à l'heure, 297 km à l'heure plus exactement. Nous avons appris que le Venezuela connaît une situation de calme tendu, mais beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir. Les frères du Venezuela se portent bien, la vie quotidienne se poursuit sans changement majeur, mais ils continuent à lutter pour obtenir des produits de base pour la vie quotidienne, comme ils l'ont fait au cours des 10 dernières années. Nous pouvons nous sentir riches et comblés de biens. Nous avons tellement de choses dans ce pays et dans les autres pays occidentaux. Ainsi, nous avons le Myanmar, Haïti, Cuba, la Jamaïque, et le Venezuela. Ils s'en sortent bien pour l'instant. Mais ce sont nos frères et sœurs. Et lorsque vous voyagez dans d'autres parties du monde, vous vous rendez compte que ce sont des gens qui pensent comme nous. Ils ne sont pas des créatures étranges, ils sont comme nous. Notre objectif ne doit pas être d'essayer de faire pression sur Dieu pour qu'il intervienne, de nous liguer contre lui, mais plutôt d'examiner nos propres lacunes. Nous avons de nombreux membres qui ont des problèmes de santé très graves, même notre congrégation locale ici et de nombreuses congrégations dans le monde, avec des cancers et diverses autres afflictions. Mais nous devons nous rendre compte que pour que les gens soient guéris, pour que ces problèmes soient résolus, nous devons nous assurer que nous sommes en règle avec Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu va résoudre tous les problèmes, mais nos prières seront certainement entendues beaucoup plus volontiers si nous faisons notre part. Nous devons comprendre notre appel. Nous devons comprendre que nous avons besoin de changer, de grandir, de confesser nos péchés et de nous repentir. Nous devons comprendre pourquoi nous sommes vraiment uniques dans l'histoire de l'humanité. Nous arrivons à la fin d'une époque. Vous savez, dans Daniel, je sais que je dépasse mon temps, c'est un peu long, mais pas tant. Mais dans Daniel 9, c'est très intéressant parce qu'il y a un parallèle ici. Dans Daniel 9, verset 2, il dit, Daniel 9, verset 2, la première année de son règne, c'est Darius ici, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Réfléchissez-y. Voici Daniel, et il comprend que, selon les prophéties de Jérémie, 70 ans s'écouleraient pour la désolation de Jérusalem, et qu'ensuite elle serait reconstruite. elle n'a pas été reconstruite immédiatement. Mais il a vu ce temps arriver. Tout comme nous, voyons la fin d'une époque. Il a vu la fin d'une époque à ce moment-là. Alors, qu'a-t-il fait? Daniel 9, verset 3. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 5. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Et nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Vous savez, il priait pour sa nation. Il priait pour son peuple. Il ne s'est pas contenté de dire « C'est vaurien là-bas ». Non, il a dit « Nous ». Nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire. Et au verset 6, « Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes. Nous n'avons pas écouté. » Puis il continue et confesse ses péchés, et ensuite il demande à Dieu d'intervenir. Et il dit au verset 18, « Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Voyons-nous la fin des temps approcher? Voyons-nous, comme l'a fait M. Armstrong, qu'il s'agit d'une période unique dans l'histoire et que nous avons une responsabilité? Voyons-nous que Dieu nous a donné sa vérité, bien plus que la plupart des serviteurs de Dieu à travers les âges? Il nous a donné toute cette vérité, mais nous avons la responsabilité d'en faire quelque chose. Noé fut appelé à construire une arche. Abraham fut appelé à quitter sa ville natale, où il vivait, pour aller dans un autre endroit dont il ne savait pas ce qu'il deviendrait. Moïse fut appelé à retourner en Égypte et faire sortir son peuple d'Égypte, ce qu'il ne voulait pas faire. Les prophètes furent appelés à avertir les peuples, et ils payèrent un lourd tribut pour cela. Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Dieu vit à ce qu'il se rende à Ninive. Et nous sommes appelés à accomplir Matthieu 24, 14 et Ézéchiel 33 pour avertir le peuple israélite et le monde de ce qui est à venir. Oui, frères et sœurs, nous devons implorer Dieu d'intervenir pour nos frères et sœurs qui traversent déjà de grandes épreuves. Mais ce faisant, concentrons-nous avant tout à nous humilier et à confesser nos péchés et à nous efforcer pour nous rapprocher de Dieu. Souvenons-nous, 40 ans plus tard, du caractère unique de notre appel, et c'est pourquoi Dieu nous a appelés, vous et moi. Nous vivons à la fin des temps. Et comme pour d'autres, Dieu a une œuvre spécifique à nous confier en ce moment. De temps en temps, nous devons prendre un peu de recul et regarder la situation dans son ensemble. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, de vous donner cette vue d'ensemble, de reconnaître que nous vivons une période intéressante. 40 est un nombre d'épreuves et de tests. L'Église a-t-elle été mise à l'épreuve après la mort de M. Armstrong? Oui, elle l'a été. Noé avait 500 ans. Et 600 ans lorsque le déluge est arrivé. Il semble qu'il s'agisse d'une période d'environ 100 ans. Dieu a commencé à travailler avec M. Armstrong il y a environ 100 ans. Il est mort il y a 40 ans et depuis nous vivons une période de tests et d'essais. L'année qui commence s'annonce passionnante. Il est difficile de savoir. Je veux dire que nous sommes au dernier jour du premier mois et regardez tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas dresser la liste de tout ce qui s'est passé. Nous sommes définitivement entrés dans une période très intéressante. Alors, individuellement et collectivement, occupons-nous des affaires de notre Père.